ce système ne peut pas continuer. Voilà. Et par ailleurs, il faut qu'on accepte de s'orienter vers une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie. Moi, mon propos est de dire qu'il faudrait qu'on le choisisse, parce que de toute façon, ça va se faire. Mais si ça se fait de manière subie, ça sera beaucoup plus difficile. Là, effectivement, moi j'interprète l'évolution actuelle comme des efforts désespérés du système pour se maintenir. Mais en rester juste à cette question, d'après les mots que vous avez employés, à ce que je comprends, ça revient à ce qu'on a dit sur l'Irlande. C'est levier l'action économique dont les États seraient démunis parce qu'ils ne posent pas la question, ils ne veulent pas mettre en péril la situation des banques et ils ne veulent pas poser la question de la répartition des revenus. Les leviers d'action économique, ils sont là. Ils sont, et d'une certaine manière, le nouveau gouvernement irlandais montre la voie. C'est-à-dire que dans une certaine situation, il faut voir d'où vient la situation financière. Et donc, il faut dire qu'on ne prend pas en charge un certain nombre de dettes. On fait une analyse de la dette, on voit celle qu'on rembourse et celle qu'on ne rembourse pas. Voilà. Et d'autres gens, même du CADTN par exemple, disent il faut, comment dit-on, quand on se met en faillite, on refuse de rembourser les dettes. Ça doit être un choix qui a été fait. Et là, il y a eu des cas aussi en Amérique latine. Je me demande si la Bolivie l'avait pas fait. Enfin bref. Il y a, le terme m'échappe, mais il y a un moment où vous dites, je ne paye pas la dette. C'est-à-dire, on se met en faillite. Ça existe dans la vie économique, au demeurant, hein, vous pouvez avoir une entreprise, vous faites ce qu'on appelle le dépôt de bilan. Ça ne veut pas dire que votre entreprise s'interrompt, mais vous allez dire, on va continuer, mais on gèle les dettes. Eh bien, il faut rentrer dans cette logique, à mon sens. Parce que là, on revient à la question de la dette, mais comme ce n'est pas absolument mon propos et ce sur quoi je carbure le plus en ce moment, je ne suis pas forcément le plus compétent pour répondre là-dessus, donc je vous donne la façon dont je perçois les choses. Mais donc, en deux mots, il faut poser clairement la question de ce qu'on doit aux banques et la question de la distribution des richesses. Et tant que ces deux questions ne sont pas sur la table, on est dans une situation critique. Après, en fait, ce que j'avais envie de vous répondre, c'est l'autre jour, j'ai fait réviser ma fille de 13 ans, m'a fait réciter sa leçon d'histoire. La leçon d'histoire, c'était très court, il y avait les états généraux de 1789. Les états généraux de 1789 sont convoqués par le roi Louis XVI parce que l'état français est en totale faillite. Les états généraux se réunissent et font la révolution. Alors, et là encore, je ferai un retour à la démocratie et à la déclaration des droits de l'homme de 1789, où il y a une phrase très belle, et c'est au cœur de la démocratie, je la redis très mal, c'est les élus du peuple décident de la contribution publique. Eh bien, je crois qu'il faut que nous soyons dans une situation où on repose clairement la contribution publique et la question de la répartition des richesses. Et c'est ça qui manque dans tous ces discours sur la dette, sur les leviers d'action économique, sur les déficits, etc. C'est que ces deux questions du pouvoir des banques et de la répartition des richesses ne sont pas mises sur la table.